Confessions, livre 5, 1732-1736. Ce fut, ce me semble, en 1732 que j'arrivai à Chambéry, comme je viens de le dire, et que je commençais d'être employé au cadastre pour le service du roi. J'avais 20 ans passés, près de 21, j'étais assez formé pour mon âge du côté de l'esprit, mais le jugement ne l'était guère, et j'avais grand besoin des mains dans lesquelles je tombais pour apprendre à me conduire. Ces quelques années d'expérience n'avaient pu me guérir encore radicalement de mes visions romanesques. Et malgré tous les maux que j'avais soufferts, je connaissais aussi peu le monde et les hommes que si je n'avais pas acheté ces instructions. Je logeais chez moi, c'est-à-dire chez maman, mais je ne retrouvais pas ma chambre d'Annecy. Plus de jardin, plus de ruisseaux, plus de paysages. La maison qu'elle occupait était sombre et triste, et ma chambre était la plus sombre et la plus triste de la maison. Un mur pourvu, un cul-de-sac pourru, peu d'air, peu de jour, peu d'espace, des grillons, des rats, des planches pourries. Tout cela ne faisait pas une plaisante habitation. Mais j'étais chez elle, auprès d'elle. Sans cesse à mon bureau ou dans sa chambre, je m'apercevais peu de la laideur de la mienne. Je n'avais pas le temps d'y rêver. Il paraîtra bizarre qu'elle se fût fixée à Chambéry tout exprès pour habiter cette vilaine maison. Cela même fut un trait d'habileté de sa part que je ne dois pas taire. Elle allait à Turin avec répugnance, sentant bien qu'après des révolutions toutes récentes et dans l'agitation où l'on était encore à la cour, ce n'était pas le moment de s'y présenter. Cependant, ses affaires demandaient qu'elle s'y montrât. Elle craignait d'être oubliée ou desservie. Elle savait surtout que le comte de Saint-Laurent, intendant général des finances, ne la favorisait pas. Il avait à Chambéry une maison vieille, mal bâtie, et dans une si vilaine position qu'elle restait toujours vide. Elle la loua et s'y établit. Cela lui réussit mieux qu'un voyage. Sa pension ne fut point supprimée, et depuis lors, le comte de Saint-Laurent fut toujours de ses amis. J'y trouvai son ménage à peu près monté comme auparavant, et le fidèle Claude Anné toujours avec elle. C'était, comme je crois l'avoir dit, un paysan de Moutru qui, dans son enfance, herborisait dans le Jura pour faire du thé de Suisse, et qu'elle avait pris à son service à cause de ses drogues, trouvant commode d'avoir un herboriste dans son laquais. Il se passionna si bien pour l'étude des plantes, et elle favorisa si bien son goût, qu'il devint un vrai botaniste, et que, s'il ne fût mort jeune, il se serait fait un nom dans cette science, comme il en méritait un parmi les honnêtes gens. Comme il était sérieux, même grave, et que j'étais plus jeune que lui, il devint pour moi une espèce de gouverneur qui me sauva beaucoup de folies, car il m'en imposait, et je n'osais m'oublier devant lui. Il en imposait même à sa maîtresse, qui connaissait son grand sens, sa droiture, son inviolable attachement pour elle, et qui le lui rendait bien. Claude Anné était sans contredit un homme rare, et le seul même de son espèce que j'ai jamais vu. Lent, posé, réfléchi, circonspect dans sa conduite, froid dans ses manières, laconique et sentencieux dans ses propos, il était dans ses passions d'une impétuosité qu'il ne laissait jamais paraître, mais qui le dévorait en dedans et qui ne lui a fait faire en sa vie qu'une sottise. Mais terrible, c'est de s'être empoisonné. Cette scène tragique se passa peu après mon arrivée. Et il la fallait pour m'apprendre l'intimité de ce garçon avec sa maîtresse. Car si elle ne me l'eût dit elle-même, jamais je ne m'en serais douté. Assurément, si l'attachement, le zèle et la fidélité peuvent mériter une pareille récompense, elle lui était bien due. Et ce qui prouve qu'il en était digne, il n'en abusa jamais. Ils avaient rarement des querelles, et elles finissaient toujours bien. Il en vint pourtant une qui finit mal. Sa maîtresse lui dit, dans la colère, un mot outrageant qu'il ne put digérer. Il ne consulta que son désespoir, et trouvant sous sa main une fiole de laudanum, il l'avala, puis fut se coucher tranquillement, content ne se réveiller jamais. Heureusement, madame de Varens, inquiète, agitée elle-même, errant dans sa maison, trouva la fiole vide et devina le reste. En volant à son secours, elle poussa des cris qui m'attirèrent. Elle m'avoua tout, implora mon assistance et parvint avec beaucoup de peine à lui faire vomir l'opium. Témoin de cette scène, j'admirais ma bêtise de n'avoir jamais eu le moindre soupçon des liaisons qu'elle m'apprenait. Mais Claude Anet était si discret que de plus clairvoyants que moi auraient pu s'y méprendre. Le raccommodement fut tel que j'en fus vivement touché moi-même. Et depuis ce temps, ajoutant pour lui le respect à l'estime, je devins en quelque façon son élève et ne m'en trouvais pas plus mal. Je n'appris pourtant pas sans peine que quelqu'un pouvait vivre avec elle dans une plus grande intimité que moi. Je n'avais pas songé même à désirer pour moi cette place, mais il m'était dur de la voir remplir par un autre. Cela était fort naturel. Cependant, au lieu de prendre en aversion celui qui me l'avait soufflé, je sentis réellement s'étendre à lui l'attachement que j'avais pour elle. Je désirais sur toute chose qu'elle fût heureuse, et puisqu'elle avait besoin de lui pour l'être, j'étais content qu'il fût heureux aussi. De son côté, il entrait parfaitement dans les vues de sa maîtresse et prit en sincère amitié l'ami qu'elle s'était choisi. Sans affecter avec moi l'autorité que son poste le mettait en droit de prendre, il prit naturellement celle que son jugement lui donnait sur le mien. Je n'osais rien faire qu'il parût désapprouver, et il ne désapprouvait que ce qui était mal. Nous vivions ainsi dans une union qui nous rendait tous heureux et que la mort seule a pu détruire. Une des preuves de l'excellence du caractère de cette aimable femme est que tous ceux qui l'aimaient s'aimaient entre eux. La jalousie, la rivalité même, cédaient aux sentiments dominants qu'elle inspirait, et je n'ai vu jamais aucun de ceux qui l'entouraient se vouloir du mal l'un à l'autre. Que ceux qui me lisent suspendent un moment leur lecture à cet éloge. Et s'ils trouvent, en y pensant, quelque autre femme dont ils puissent en dire autant, qu'ils s'attachent à elle pour le repos de leur vie. Fut-elle, au reste, la dernière des catins. Ici commence, depuis mon arrivée à Chambéry jusqu'à mon départ pour Paris en 1741, un intervalle de 8 ou 9 ans durant lequel j'aurai peu d'événements à dire, parce que ma vie a été aussi simple que douce. Et cette uniformité était précisément ce dont j'avais le plus grand besoin pour achever de former mon caractère, que des troubles continuels empêchaient de se fixer. C'est durant ce précieux intervalle que mon éducation mêlée et sans suite, ayant pris de la consistance, m'a fait ce que je n'ai plus cessé d'être à travers les orages qui m'attendaient. Ce progrès fut insensible et lent, chargé de peu d'événements mémorables, mais il mérite cependant d'être suivi et développé. Au commencement, je n'étais guère occupé que de mon travail. La gêne du bureau ne me laissait pas songer à autre chose. Le peu de temps que j'avais de libre se passait auprès de la bonne maman, et n'ayant pas même celui de lire, la fantaisie ne m'en prenait pas. Mais quand ma besogne, devenue une espèce de routine, occupa moins mon esprit, il reprit ses inquiétudes. La lecture me redevint nécessaire. Et, comme si ce goût se fût toujours irrité par la difficulté de m'y livrer, il serait redevenu passion comme chez mon maître, si d'autres goûts, venus à la traverse, n'eussent fait diversion à celui-là. Quoiqu'il ne fallût pas à nos opérations une arithmétique bien transcendante, il en fallait assez pour m'embarrasser quelquefois. Pour vaincre cette difficulté, j'achetai des livres d'arithmétique. Et je l'appris bien, car je l'appris seule. L'arithmétique pratique s'étend plus loin qu'on ne pense quand on y veut mettre l'exacte précision. Il y a des opérations d'une longueur extrême, au milieu desquelles j'ai vu quelquefois de bons géomètres s'égarer. La réflexion, jointe à l'usage, donne des idées nettes. Et alors, on trouve des méthodes abrégées dont l'invention frappe l'amour-propre, dont la justesse satisfait l'esprit, et qui font faire avec plaisir un travail ingrat par lui-même. Je m'y enfonçais si bien qu'il n'y avait point de question soluble par les seuls chiffres qui m'embarrassa. Et maintenant que tout ce que j'ai su s'efface journellement de ma mémoire, cet acquis y demeure encore en partie, au bout de 30 ans d'interruption. Il y a quelques jours que, dans un voyage que j'ai fait à Davenport, chez mon hôte, assistant à la leçon d'arithmétique de ses enfants, j'ai fait sans faute, avec un plaisir incroyable, une opération des plus composées. Il me semblait, en posant mes chiffres, que j'étais encore à Chambéry dans mes heureux jours. C'était revenir de loin sur mes pas. Le lavis des maps de nos géomètres m'avait aussi rendu le goût du dessin. J'achetai des couleurs et je me mis à faire des fleurs et des paysages. C'est dommage que je me sois trouvé peu de talent pour cet art. L'inclination y était tout entière. Au milieu de mes crayons et de mes pinceaux, j'aurais passé des mois entiers sans sortir. Cette occupation devenant pour moi trop attachante, on était obligé de m'en arracher. Il en est ainsi de tous les goûts auxquels je commence à me livrer. Ils augmentent, deviennent passion, et bientôt je ne vois plus rien au monde que l'amusement dont je suis occupée. L'âge ne m'a pas guéri de ce défaut, il ne l'a pas diminué même. Et maintenant que j'écris ceci, me voilà comme un vieux radoteur engoué d'une autre étude inutile où je n'entends rien, et que ceux même qui s'y sont livrés dans leur jeunesse sont forcés d'abandonner à l'âge où je la veux commencer. C'était alors qu'elle eût été à sa place. L'occasion était belle, et j'eus quelques tentations d'en profiter. Le contentement que je voyais dans les yeux d'Année, revenant chargé de plantes nouvelles, me mit 2 ou 3 fois sur le point d'aller herboriser avec lui. Je suis presque assurée que si j'y avais été une seule fois, cela m'aurait gagné, et je serais peut-être aujourd'hui un grand botaniste. Car je ne connais point d'études au monde qui s'associent mieux avec mes goûts naturels que celles des plantes. Et la vie que je mène depuis 10 ans à la campagne n'est guère qu'une herborisation continuelle, à la vérité sans objet et sans progrès, mais n'ayant alors aucune idée de la botanique. Je l'avais prise en une sorte de mépris et même de dégoût. Je ne la regardais que comme une étude d'apothicaire. Maman, qu'il aimait, n'en faisait pas elle-même un autre usage. Elle ne recherchait que les plantes usuelles pour les appliquer à ses drogues. Ainsi, la botanique, la chimie et l'anatomie, confondues dans mon esprit sous le nom de médecine, ne servaient qu'à me fournir des sarcasmes plaisants toute la journée et à m'attirer des soufflets de temps en temps. D'ailleurs, un goût différent et trop contraire à celui-là croissait par degrés et bientôt absorba tous les autres. Je parle de la musique. Il faut assurément que je sois née pour cet art, puisque j'ai commencé de l'aimer dès mon enfance, et qu'il est le seul que j'ai aimé constamment dans tous les temps. Ce qu'il y a d'étonnant est qu'un art pour lequel j'étais née ne m'ait néanmoins tant coûté de peine à apprendre, et avec des succès si lents, qu'après une pratique de toute ma vie, jamais je n'ai pu parvenir à chanter sûrement tout à livre ouvert. Ce qui me rendait surtout alors cette étude agréable était que je la pouvais faire avec maman. Ayant d'ailleurs des goûts fort différents, la musique était pour nous un point de réunion dont j'aimais à faire usage. Elle ne s'y refusait pas. J'étais alors à peu près aussi avancée qu'elle. En 2 ou 3 fois, nous déchiffrions un air. Quelquefois, la voyant empressée autour d'un fourneau, je lui disais « Maman, voici un duo charmant qui m'a bien l'air de faire sentir l'empireux Mavaudrogue. »« Ah, par ma foi, me disait-elle, si tu me les fais brûler, je te les ferai manger. » Tout en disputant, je l'entraînais à son clavecin. On s'y oubliait, l'extrait de genièvre ou d'absinthe était calciné, elle m'embarbouillait le visage et tout cela était délicieux. On voit qu'avec peu de temps de reste, j'avais beaucoup de choses à quoi l'employer. Il me vint pourtant encore un amusement de plus qui fit bien valoir tous les autres. Nous occupions un cachot si étouffé qu'on avait besoin quelquefois d'aller prendre l'air sur la terre. Année engagea maman à louer dans un faubourg un jardin pour y mettre des plantes. À ce jardin était jointe une guinguette assez jolie qu'on meubla suivant l'ordonnance. On y mit un lit. Nous allions souvent y dîner et j'y couchais quelquefois. Insensiblement, je m'engouais de cette petite retraite, j'y mis quelques livres, beaucoup d'estampes, je passais une partie de mon temps à l'orner et à y préparer à maman quelques surprises agréables lorsqu'elle s'y venait promener. Je la quittais pour venir m'occuper d'elle, pour y penser avec plus de plaisir. Autre caprice, que je n'excuse ni n'explique, mais que j'avoue parce que la chose était ainsi. Je me souviens qu'une fois, Madame de Luxembourg me parlait en raillant d'un homme qui quittait sa maîtresse pour lui écrire. Je lui dis que j'aurais bien été cet homme-là, et j'aurais pu ajouter que je l'avais été quelquefois. Je n'ai pourtant jamais senti près de maman ce besoin de m'éloigner d'elle pour l'aimer davantage. Car tête à tête avec elle, j'étais aussi parfaitement à mon aise que si j'eusse été seule. Et cela ne m'est jamais arrivé près de personne autre, ni homme ni femme. Quelque attachement que j'ai eu pour eux. Mais elle était si souvent entourée et de gens qui me convenaient si peu que le dépit et l'ennui me chassaient dans mon asile où je l'avais comme je la voulais, sans crainte que les importuns vinssent nous y suivre. Tandis qu'ainsi partagé entre le travail, le plaisir et l'instruction, je vivais dans le plus doux repos. L'Europe n'était pas si tranquille que moi. La France et l'empereur venaient de s'entre-déclarer la guerre. Le roi de Sardaigne était entré dans la querelle, et l'armée française filait en Piémont pour entrer dans le Milanais. Il en passa une colonne par Chambéry, et entre autres le régiment de Champagne, dont était colonel Monsieur le duc de la Trimouille, auquel je fus présenté, qui me promit beaucoup de choses, et qui sûrement n'a jamais repensé à moi. Notre petit jardin était précisément au haut du faubourg par lequel entraient les troupes, de sorte que je me rassasiais du plaisir d'aller les voir passer, et je me passionnais pour le succès de cette guerre, comme s'il m'eût beaucoup intéressé. Jusque-là, je ne m'étais pas encore avisé de songer aux affaires publiques, et je me mis à lire les gazettes pour la première fois, mais avec une telle partialité pour la France que le cœur me battait de joie à ses moindres avantages, et que ses revers m'affligeaient comme s'ils fussent tombés sur moi. Si cette folie n'eût été que passagère, je ne daignerais pas en parler. Mais elle s'est tellement enracinée dans mon cœur, sans aucune raison, que lorsque j'ai fait dans la suite, à Paris, l'antidespote et le fier républicain, je sentais en dépit de moi-même une prédilection secrète pour cette même nation que je trouvais servile et pour ce gouvernement que j'affectais de fronder. Ce qu'il y avait de plaisant était qu'ayant honte d'un penchant si contraire à mes maximes, je n'osais l'avouer à personne et je raillais les Français de leur défaite tandis que le cœur m'en saignait plus qu'à eux. Je suis sûrement le seul qui, vivant chez une nation qui le traitait bien et qu'il adorait, se soit fait chez elle un faux air de la dédaigner. Enfin, ce penchant s'est trouvé si désintéressé de ma part, si fort, si constant, si invincible, que même depuis ma sortie du royaume, depuis que le gouvernement, les magistrats, les auteurs s'y sont à l'envi déchaînés contre moi, depuis qu'il est devenu du bon air de m'accabler d'injustice et d'outrage, je n'ai pu me guérir de ma folie. Je les aime en dépit de moi, quoi qu'ils me maltraitent. J'ai cherché longtemps la cause de cette partialité, et je n'ai pu la trouver que dans l'occasion qui la vit naître. Un goût croissant pour la littérature m'attachait aux livres français, aux auteurs de ces livres, au pays de ces auteurs. Au moment même que défilait sous mes yeux l'armée française, je lisais les grands capitaines de Brantôme. J'avais la tête pleine des Clisson, des Bayard, des Lautrec, des Coligny, des Montmorency, des La Trimouille, et je m'affectionnais à leurs descendants comme aux héritiers de leur mérite et de leur courage. À chaque régiment qui passait, je croyais revoir ces fameuses bandes noires qui, jadis, avaient fait tant d'exploits en Piémont. Enfin, j'appliquais à ce que je voyais les idées que je puisais dans les livres. Mes lectures continuées et toujours tirées de la même nation nourrissaient mon affection pour elle et m'en firent une passion aveugle que rien n'a pu surmonter. J'ai eu, dans la suite, occasion de remarquer dans mes voyages que cette impression ne m'était pas particulière, et qu'agissant plus ou moins dans tous les pays sur la partie de la nation qui aimait la lecture et qui cultivait les lettres, elle balançait la haine générale qu'inspire l'air avantageux des Français. Les romans, plus que les hommes, leur attachent les femmes de tous les pays. Leurs chefs-d'œuvre dramatiques affectionnent la jeunesse à leur théâtre. La célébrité de celui de Paris y attire des foules d'étrangers qui en reviennent enthousiastes. Enfin, l'excellent goût de leur littérature leur soumet tous les esprits qui en ont. Et dans la guerre si malheureuse dont ils sortent, j'ai vu leurs auteurs et leurs philosophes soutenir la gloire du nom français, terni par leurs guerriers. J'étais donc français ardent, et cela me rendit nouvelliste. J'allais avec la foule des gobe-mouches attendre sur la place l'arrivée des courriers. Et, plus bête que l'âne de la table, je m'inquiétais beaucoup pour savoir de quel maître j'aurais l'honneur de porter le bas. Car on prétendait alors que nous appartiendrions à la France, et l'on faisait de la Savoie un échange pour le Milanais. Il faut pourtant convenir que j'avais quelques sujets de crainte, car si cette guerre eut mal tourné pour les alliés, la pension de maman courait un grand risque. Mais j'étais plein de confiance dans mes bons amis. Et pour le coup, malgré la surprise de monsieur de Brolier, cette confiance ne fut pas trompée, grâce au roi de Sardaigne, à qui je n'avais pas pensé. Tandis qu'on se battait en Italie, on chantait en France. Les opéras de Rameau commençaient à faire du bruit et relevèrent ces ouvrages théoriques que leur obscurité laissait à la portée de peu de gens. Par hasard, j'entendis parler de son traité de l'harmonie, et je n'eus point de repos que je n'eusse acquis ce livre. Par un autre hasard, je tombai malade. La maladie était inflammatoire, elle fut vive et courte, mais ma convalescence fut longue, et je ne fus d'un mois en état de sortir. Durant ce temps, j'ébauchais, je dévorais mon traité de l'harmonie. Mais il était si long, si diffus, si mal arrangé, que je sentis qu'il me fallait un temps considérable pour l'étudier et le débrouiller. Je suspendais mon application et je récréais mes yeux avec de la musique. Les cantates de Bernier, sur lesquelles je m'exerçais, ne me sortaient pas de l'esprit. J'en appris par cœur 4 ou 5, entre autres celle des Amours dormants, que je n'ai pas revue depuis ce temps-là, et que je sais encore presque tout entière, de même que « L'amour piqué par une abeille », très jolie cantate de Clérambeau que j'appris à peu près dans le même temps. Pour m'achever, il arriva de la Val d'Aoste un jeune organiste appelé l'abbé Palais, bon musicien, bon homme, et qui accompagnait très bien du clavecin. Je fais connaissance avec lui, nous voilà inséparables. Il était l'élève d'un moine italien, grand organiste. Il me parlait de ses principes, je les comparais avec ceux de mon rameau. Je remplissais ma tête d'accompagnements, d'accords, d'harmonie. Il fallait se former l'oreille à tout cela. Je proposais à maman un petit concert tous les mois. Elle y consentit. Me voilà si bien de ce concert que ni jour ni nuit je ne m'occupais d'autre chose. Et réellement cela m'occupait, et beaucoup, pour rassembler la musique, les concertants, les instruments, tirer les parties, etc. Maman chantait. Le père Caton, dont j'ai parlé et dont j'ai à parler encore, chantait aussi. Un maître à danser, appelé Roche, et son fils jouaient du violon. Canava, musicien piémontais qui travaillait au cadastre et qui depuis s'est marié à Paris, jouait du violoncelle. L'abbé Palais accompagnait du clavecin. J'avais l'honneur de conduire la musique, sans oublier le bâton du bûcheron. On peut juger combien tout cela était beau. Pas tout à fait comme chez monsieur de Trétorens, mais il ne s'en fallait guère. Le petit concert de madame de Varens, nouvelle convertie et vivant, disait-on, des charités du roi, faisait murmurer la séquelle dévote. Mais c'était un amusement agréable pour plusieurs honnêtes gens. On ne devinerait pas qui je mets à leur tête en cette occasion. Un moine, mais un moine homme de mérite, et même aimable, dont les infortunes m'ont dans la suite bien vivement affecté, et dont la mémoire, liée à celle de mes beaux jours, m'est encore chère. Il s'agit du père Caton, cordelier, qui, conjointement avec le comte d'Hortan, avait fait saisir à Lyon la musique du pauvre petit chat, ce qui n'est pas le plus beau trait de sa vie. Il était bachelier de Sorbonne, il avait vécu longtemps à Paris, dans le plus grand monde, et très faufilé, surtout chez le marquis d'Entremont, alors ambassadeur de Sardaigne. C'était un grand homme, bien fait, le visage plein, les yeux à fleur de tête, des cheveux noirs, qui faisait sans affectation le crochet à côté du front. L'air à la fois noble, ouvert, modeste, se présentant simplement et bien, n'ayant ni le maintien cafard ou effronté des moines, ni l'abord cavalier d'un homme à la mode, quoiqu'il le fût. Mais l'assurance d'un honnête homme qui, sans rougir de sa robe, s'honore lui-même et se sent toujours à sa place parmi les honnêtes gens. Quoique le père Caton n'eût pas beaucoup d'études pour un docteur, il en avait beaucoup pour un homme du monde. Et n'étant point pressé de montrer son acquis, il le plaçait si à propos qu'il en paraissait davantage. Ayant beaucoup vécu dans la société, il s'était plus attaché aux talents agréables qu'à un solide savoir. Il avait de l'esprit, faisait des vers, parlait bien, chantait mieux, avait la voix belle, touchait l'orgue et le clavecin. Il n'en fallait pas tant pour être recherché. Aussi l'était-il. Mais cela lui fit si peu négliger les soins de son état qu'il parvint, malgré des concurrents très jaloux, à être élu définiteur de sa province, ou, comme on dit, un des grands colliers de l'ordre. Ce père Caton fit connaissance avec maman, chez le marquis d'Entremont. Il entendit parler de nos concerts, il voulut en être. Il en fut, et les rendit brillants. Nous fûmes bientôt liés par notre goût commun pour la musique, qui, chez l'un et chez l'autre, était une passion très vive, avec cette différence qu'il était vraiment musicien et que je n'étais qu'un barbouillon. Nous allions, avec Canava et l'abbé Palais, faire de la musique dans sa chambre, et quelquefois à son orgue les jours de fête. Nous dînions souvent à son petit couvert, car ce qu'il y avait encore d'étonnant pour un moine est qu'il était généreux, magnifique et sensuel sans grossièreté. Les jours de nos concerts, il soupait chez maman. Ses soupers étaient très gais, très agréables. On y disait le mot et la chose, on y chantait des duos. J'étais à mon aise, j'avais de l'esprit, des saillies. Le père Caton était charmant, maman était adorable. L'abbé Palais, avec sa voix de bœuf, était le plastron. Moment si doux de la folâtre jeunesse, qu'il y a de temps que vous êtes parti. Comme je n'aurai plus à parler de ce pauvre père Caton, que j'achève ici en deux mots sa triste histoire. Les autres moines, jaloux ou plutôt furieux de lui voir un mérite, une élégance de mœurs qui n'avait rien de la crapule monastique, le prirent en haine, parce qu'il n'était pas aussi haïssable qu'eux. Les chefs se liguèrent contre lui et ameutèrent les moinillons envieux de sa place, et qui n'osaient auparavant le regarder. On lui fit 1000 affronts, on le destitua, on lui ôta sa chambre, qu'il avait meublée avec goût, quoique avec simplicité. On le relégua je ne sais où, enfin ces misérables l'accablèrent de tant d'outrages que son âme honnête et fière avec justice n'y put résister. Et, après avoir fait les délices des sociétés les plus aimables, il mourut de douleur sur un vil grabat, dans quelque fond de cellule ou de cachot, regretté, pleuré de tous les honnêtes gens dont il fut connu, et qui ne lui ont trouvé d'autre défaut que d'être moine. Avec ce petit train de vie, je fis si bien en très peu de temps qu'absorbé tout entier par la musique, je me trouvai hors d'état de penser à autre chose. Je n'allais plus à mon bureau qu'à contre-cœur. La gêne et l'assiduité au travail m'en firent un supplice insupportable. Et j'en vins enfin à vouloir quitter mon emploi pour me livrer totalement à la musique. On peut croire que cette folie ne passa pas sans opposition. Quitter un poste honnête et d'un revenu fixe pour courir après des écoliers incertains était un parti trop peu sensé pour plaire à maman. Même en supposant mes progrès futurs aussi grands que je me les figurais, c'était borner bien modestement mon ambition que de me réduire pour la vie à l'état de musicien. Elle, qui ne formait que des projets magnifiques et qui ne me prenait plus tout à fait au mot de M. d'Aubonne, me voyait avec peine occupée sérieusement d'un talent qu'elle trouvait si frivole et me répétait souvent ce proverbe de province, un peu moins juste à Paris, que « qui bien chante et bien danse fait un métier qui peu avance ». Elle me voyait d'un autre côté entraînée par un goût irrésistible. Ma passion de musique devenait une fureur, et il était à craindre que mon travail, se sentant de mes distractions, ne m'attirât un congé qu'il valait beaucoup mieux prendre de moi-même. Je lui représentais encore que cet emploi n'avait pas longtemps à durer, qu'il me fallait un talent pour vivre, et qu'il était plus sûr d'achever d'acquérir par la pratique celui auquel mon goût me portait et qu'elle m'avait choisi, que de me mettre à la merci des protections ou de faire de nouveaux essais qui pouvaient mal réussir et me laisser, après avoir passé l'âge d'apprendre, sans ressources pour gagner mon pain. Enfin, j'extorquais son consentement plus à force d'importunité et de caresses que de raisons dont elle se contenta. Aussitôt, je courus remercier fièrement M. Coccelli, directeur général du cadastre, comme si j'avais fait l'acte le plus héroïque, et je quittai volontairement mon emploi sans sujet, sans raison, sans prétexte, avec autant et plus de joie que je n'en avais eu à le prendre. Il n'y avait pas 2 ans. Cette démarche, toute folle qu'elle était, m'attira dans le pays une sorte de considération qui me fut utile. Les uns me supposèrent des ressources que je n'avais pas, d'autres, me voyant livré tout à fait à la musique, jugèrent de mon talent par mon sacrifice, et crurent qu'avec tant de passion pour cet art, je devais le posséder supérieurement. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Je passai là pour un bon maître, parce qu'il n'y en avait que de mauvais. Ne manquant pas au reste d'un certain goût de chant, favorisé d'ailleurs par mon âge et par ma figure, j'eus bientôt plus d'écolières qu'il ne m'en fallait pour remplacer ma paye de secrétaire. Il est certain que pour l'agrément de la vie, on ne pouvait passer plus rapidement d'une extrémité à l'autre. Au cadastre, occuper 8 heures par jour du plus maussade travail, avec des gens encore plus maussades, enfermés dans un triste bureau en puantis de la laine et de la sueur de tous ses manants, la plupart fort mal peignés et fort mal propres, je me sentais quelquefois accablé jusqu'au vertige par l'attention, l'odeur, la gêne et l'ennui. Au lieu de cela, me voilà tout à coup jeté parmi le beau monde, admis, recherché dans les meilleures maisons. Partout un accueil gracieux, caressant, un air de fête. D'aimables demoiselles bien parées m'attendent, me reçoivent avec empressement. Je ne vois que des objets charmants. Je ne sens que la rose et la fleur d'orange. On chante, on cause, on rit, on s'amuse. Je ne sors de là que pour aller ailleurs en faire autant. On conviendra qu'à égalité dans les avantages, il n'y avait pas à balancer dans le choix. Aussi me trouvais-je si bien du mien qu'il ne m'est arrivé jamais de m'en repentir, et je ne m'en repens pas même en ce moment, où je pèse, au poids de la raison, les actions de ma vie, et où je suis délivré des motifs peu sensés qui m'ont entraîné. Voilà presque l'unique fois qu'en n'écoutant que mes penchants, je n'ai pas vu tromper mon attente. L'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile des habitants du pays me rendit le commerce du monde aimable. Et le goût que j'y pris alors m'a bien prouvé que, si je n'aime pas à vivre parmi les hommes, c'est moins ma faute que la leur. C'est dommage que les Savoyards ne soient pas riches, ou peut-être serait-ce dommage qu'ils le fussent, car tels qu'ils sont, c'est le meilleur et le plus sociable peuple que je connaisse. S'il est une petite ville au monde où l'on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr, c'est Chambéry. La noblesse de la province qui s'y rassemble n'a que ce qu'il faut de bien pour vivre. Elle n'en a pas assez pour parvenir. Et ne pouvant se livrer à l'ambition, elle suit, par nécessité, le conseil de Cinéas. Elle dévoue sa jeunesse à l'état militaire, puis revient vieillir paisiblement chez soi. L'honneur et la raison président à ce partage. Les femmes sont belles et pourraient se passer de l'être. Elles ont tout ce qui peut faire valoir la beauté et même y suppléer. Il est singulier qu'appelée par mon état à voir beaucoup de jeunes filles, je ne me rappelle pas d'en avoir vu à Chambéry une seule qui ne fût pas charmante. On dira que j'étais disposée à les trouver belles, et l'on peut avoir raison. Mais je n'avais pas besoin d'y mettre du mien pour cela. Je ne puis, en vérité, me rappeler sans plaisir le souvenir de mes jeunes écolières. Que ne puis-je, en nommant ici les plus aimables, les rappeler de même, et moi avec elles, à l'âge heureux où nous étions lors des moments aussi doux qu'innocents que j'ai passés auprès d'elles. La première fut Mademoiselle de Mélarède, ma voisine, sœur de l'élève de Monsieur Guem. C'était une brune très vive, mais d'une vivacité caressante, pleine de grâce et sans étourderie. Elle était un peu maigre, comme sont la plupart des filles à son âge, mais ses yeux brillants, sa taille fine, son air attirant n'avaient pas besoin d'embonpoint pour plaire. J'y allais le matin, et elle était encore en déshabillé, sans autre coiffure que ses cheveux négligemment relevés, ornés de quelques fleurs qu'on mettait à mon arrivée et qu'on ôtait à mon départ pour se coiffer. Je ne crains rien tant dans le monde qu'une jolie personne en déshabillé. Je la redouterais 100 fois moins parée. Mademoiselle de Menton, chez qui j'allais l'après-midi, l'était toujours, et me faisait une impression tout aussi douce, mais différente. Ses cheveux étaient d'un blond cendré. Elle était très mignonne, très timide et très blanche, d'une voix nette, juste et flûtée, mais qui n'osait se développer. Elle avait au sein la cicatrice d'une brûlure d'eau bouillante qu'un fichu de chenille bleue ne cachait pas extrêmement. Cette marque attirait quelquefois de ce côté mon attention, qui bientôt n'était plus pour la cicatrice. Mademoiselle de Châles, une autre de mes voisines, était une fille faite, grande, belle carrure, de l'embonpoint. Elle avait été très bien. Ce n'était plus une beauté, mais c'était une personne acitée pour la bonne grâce, pour l'humeur égale, pour le bon naturel. Sa sœur, Madame de Charly, la plus belle femme de Chambéry, n'apprenait plus la musique, mais elle la faisait apprendre à sa fille, toute jeune encore, mais dont la beauté naissante eût promis d'égaler celle de sa mère, si malheureusement elle n'eût été un peu rousse. J'avais à la visitation une petite demoiselle française, dont j'ai oublié le nom, mais qui mérite une place dans la liste de mes préférences. Elle avait pris le ton lent et traînant des religieuses, et sur ce ton traînant, elle disait des choses très saillantes qui ne semblaient point aller avec son maintien. Au reste, elle était paresseuse, n'aimant pas à prendre la peine de montrer son esprit, et c'était une faveur qu'elle n'accordait pas à tout le monde. Ce ne fut qu'après un mois ou deux de leçons et de négligence qu'elle s'avisa de cet expédient pour me rendre plus assidue. Car je n'ai jamais pu prendre sur moi de lettres. Je me plaisais à mes leçons quand j'y étais, mais je n'aimais pas être obligée de m'y rendre, ni que l'heure me commandât. En toute chose, la gêne et l'assujettissement me sont insupportables. Ils me feraient prendre en haine le plaisir même. On dit que chez les Mahométans, un homme passe au point du jour dans les rues pour ordonner aux maris de rendre le devoir à leurs femmes. Je serais un mauvais turc à ces heures-là. J'avais quelques écolières aussi dans la bourgeoisie, et une, entre autres, qui fut la cause indirecte d'un changement de relation dont j'ai à parler, puisque, enfin, je dois tout dire. Elle était fille d'un épicier et se nommait Mademoiselle Lard, vrai modèle d'une statue grecque et que je citerai pour la plus belle fille que j'ai jamais vue, s'il y avait quelque véritable beauté sans vie et sans âme. Son indolence, sa froideur, son insensibilité allaient à un point incroyable. Il était également impossible de lui plaire et de la fâcher. Et je suis persuadée que si l'on eût fait sur elle quelque entreprise, elle aurait laissé faire, non par goût, mais par stupidité. Sa mère, qui n'en voulait pas courir le risque, ne la quittait pas d'un pas. En lui faisant apprendre à chanter, en lui donnant un jeune maître, elle faisait tout de son mieux pour l'émoustiller, mais cela ne réussit point. Tandis que le maître agaçait la fille, la mère agaçait le maître, et cela ne réussissait pas beaucoup mieux. Madame Lard ajoutait à sa vivacité naturelle toutes celles que sa fille aurait dû avoir. C'était un petit minois éveillé, chiffonné, marqué de petites véroles. Elle avait de petits yeux très ardents et un peu rouges, parce qu'elle y avait presque toujours mal. Tous les matins, quand j'arrivais, je trouvais prêt mon café à la crème, et la mère ne manquait jamais de m'accueillir par un baiser bien appliqué sur la bouche, et que, par curiosité, j'aurais bien voulu rendre à la fille pour voir comment elle l'aurait pris. Au reste, tout cela se faisait si simplement et si fort sans conséquence que, quand M. Lard était là, les agaceries et les baisers n'en allaient pas moins leur train. C'était une bonne patte d'homme, le vrai père de sa fille, et que sa femme ne trompait pas parce qu'il n'en était pas besoin.